phénomène qui inquiète beaucoup les lycées. Les étudiants et les lycéens vont-ils rejoindre le mouvement?
What you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parish. You fellow, but your fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. Who you? What are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not king here. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. You do about nothing, what you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the Fourth. I'm fire, things look dire. Better run like Pericles, place of tire. Off the scale, cold as the winter's tail tire.
Bonsoir.
Donc nous sommes le mercredi 7 mars, il est 19h passé de 3 minutes et c'est l'heure du Canu Info.
Avec ce soir des nouvelles de Calais où la préfecture organise des distributions de nourriture, mais alors à la première il y avait seulement 2 personnes.
Et un traitement médiatique des attentats.
Nous aurons droit à un panorama des privations de liberté numérique.
Et une information sur la centrale nucléaire du Bugey qui dégueule son tritium dans l'eau du Rhône.
Ah ouais, Washington relance l'escalade nucléaire.
Et mettre au pas les riches bonnes nouvelles.
Et puis on terminera certainement par un petit agenda.
Et on va commencer ce Canu Info donc par des 3 brèves.
Brève numéro 1, Europa City. Ça date d'hier soir. La justice annule la création de la zone d'aménagement devant accueillir le méga projet. Et donc, on est vraiment très triste que cette espèce d'immonde furoncle soit repoussé. Alors, juste quand même la brève, hein, c'est dans le triangle de Gonesse et dans le Val d'Oise, c'est vers l'aéroport du Bourget et de Roissy à 15 km au nord de Paris. Et donc, c'est le tribunal administratif de Cergy qui hier a dit que, en fait, stop. Avec cette histoire de zone d'aménagement concertée ZAC. Alors, qu'est-ce qui avait prévu dessus? Qu'est-ce qui est prévu? C'est sur 280 hectares, c'est de virer tout le monde, évidemment de raser les terres agricoles, de faire couler du béton de tous les côtés, avec une gare de Grand Paris, un centre d'affaires de 800 000 m² de bureaux, 80 hectares de méga complexe de loisirs, évidemment, il y aura une piste de ski indoor, un parc aquatique, des salles de spectacle, des hôtels de luxe et 230 000 m² de boutiques. Donc, a priori, si vous me pardonnez l'expression, visiblement, ce projet l'aurait un peu dans le fion. Alors, le courageux maire de Gonesse, on va faire un sondage pour savoir de quelle sensibilité il est, il dit « Il s'agit plus d'un contretemps que d'une remise en cause ». Donc ça c'est le maire de Gonesse qui est donc un maire...
Les Républicains.
Non, socialiste. Parce que lui, si tu veux, il compte en fait sur ce méga projet pour créer 10 000 emplois et tout ça pour que ça aille bien dans ça. Alors 10 000 emplois, si vous faites, ça coûte 3,1 milliards d'euros, donc divisé par 10 000, ça fait 20 ans de SMIC par emploi, enfin bref, voilà. Donc pour l'instant, Europa City, bref numéro 1.
Tu veux dire, on aurait mieux fait de payer les gens à rien foutre.
Bref, Europa City, Red Dead pour l'instant.
Et on enchaîne. Est-ce que vous savez, est-ce que comme moi vous avez remarqué que votre réveil branché sur le secteur horloge de votre four prenait du retard en ce moment?
Oui, c'est insupportable.
Mais non, pas du tout. Ah. J'ai rien vu de tout ça.
Peut-être que tu n'as pas de réveil branché sur le secteur.
On parle uniquement des radios réveil et des réveils branchés sur les prises.
Bon, alors, il s'agit du conflit entre la Serbie et le Kosovo. Ah, je vois le regard ébahi dans le studio. En gros, la production d'électricité en Europe est à la fréquence de 50 Hz, hein, c'est ce qui sort de votre prise. En gros, en une seconde, vous aurez 50 fois une valeur positive et 50 fois une valeur négative. Donc, les horloges reliées au secteur sont fabriquées de telle manière qu'elles comptent le nombre de valeurs positives et négatives. Et quand ça fait 100, 2 fois 50, hein, si vous avez suivi, eh ben, elles savent qu'une seconde est passée. Pratique, n'est-ce pas? Sauf que le Kosovo, pour des raisons de pression pour rejoindre le, je cite, réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport d'électricité. Bon, là, on s'en fout, tout ça, c'est un peu trop gros pour nous, on comprend pas trop. Et bien, en tout cas, il s'avère qu'il a volontairement baissé sa production d'électricité et que dans la région des Balkans, le pays qui est responsable de l'équilibre de fourniture en énergie, c'est la Serbie. Et pour elle, il est hors de question, mais alors vraiment hors de question, de compenser quoi que ce soit venant du Kosovo. Alors, si la personne qui est en train d'essayer d'appeler dans le studio nous écoute, sachez qu'elle peut attendre un tout petit peu avant de nous appeler.
Vous passez voilà. Sur 60 Hz, ça.
Donc je reprends. En gros, pour le Kosovo, il est hors de question de compenser quoi que ce soit venant de la Serbie. Et donc, pour cette raison qu'actuellement, on n'a plus donc 50 Hz tout pile dans notre réseau, mais 49,996 Hz. Et c'est donc ce minuscule décalage qui décale certaines de nos horloges, et ce, depuis janvier. Alors donc, pour vous en servir comme excuse auprès de votre chef, si vous arrivez en retard, il faudra lui dire que vous avez un vieux radio réveil qui n'a pas de pile, ou que vous vous calez votre départ sur l'horloge de votre four.
Donc vous êtes bien sûr dans C'est pas sorcier.
Là, c'est vrai, j'ai eu l'impression d'incarner un peu Jamy pendant quelques secondes.
C'est ça, merci beaucoup pour cette info.
Bon, après C'est pas sorcier, on passe au Vatican avec une brève aussi qui date d'il y a quelques jours, okay, qui n'est pas spécialement rigolote. Du coup, ça montre que tout simplement les relations de domination à l'encontre des femmes, ça se passe aussi et particulièrement à l'Église. Alors c'est le supplément, évidemment je ne savais pas que ça existait, mais le supplément féminin du journal du Vatican qui a interrogé plein de monde et qui a interrogé des bonnes sœurs. Et visiblement, elles sont purement et simplement asservies. Je passe un peu les détails, mais bon, certaines servent dans les habitations privées des évêques et des cardinaux. Donc en fait, c'est des sœurs qui servent de servantes. Elles n'ont pas d'horaire précis. Elles expliquent qu'elles sont même pas rémunérées, que quels que soient les diplômes qu'elles avaient avant de devenir bonnes sœurs. Bref, elles sont considérées comme des moins que rien. Effectivement, alors il y en a une qui dit ceci qui est assez terrible. Certaines sœurs continuent à dire qu'elles sont heureuses grâce notamment à la prise d'anxiolytiques. Voilà. C'est aussi pour préciser que voilà, même à l'Église, enfin, on s'en doutait peut-être, hein, ce genre de relation de domination existe. Et quelqu'un qui a l'air d'être bien informé précise que ça sera sûrement lent et difficile à obtenir que ça change, puisque visiblement, beaucoup de prélats, alors les prélats, c'est des évêques, des hauts gradés de l'Église, quoi, qui sont tous des hommes, évidemment. Alors, ils veulent pas du tout entendre parler ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc, il y a un rapport, pour une fois, qui parlait des bonnes sœurs, qui est sorti la semaine dernière.
Alors, on en avait parlé il y a quelques semaines. Gérard Collomb avait annoncé qu'il reprendrait la gestion de distribution de repas à Calais au détriment donc des associations de terrain qui faisaient ça depuis plusieurs années. Cette annonce a fait suite à une baston qui avait eu lieu sur un point de distribution de nourriture. Baston qui avait été largement médiatisé, surmédiatisé. Enfin, ça avait un peu couvert le champ médiatique pendant au moins bien deux jours, je dirais. Gérard Collomb, on s'en souvient, avait débarqué à Calais tel un Sarkozy en puissance. Et voilà. Un fait divers et faisant lieu état d'une mesure, et ben ça n'a pas attendu. Donc il avait déclaré ça. Il s'était donné 15 jours pour mettre ça en place. Il lui aura fallu donc un mois pour mettre ça en place, effectivement. Et on peut dire que c'est un échec total. Hein. Hier a eu lieu donc la première distribution et seulement deux personnes sont venues prendre leur petit paquet. Alors, c'est-à-dire que quand on voit l'installation, je ne sais pas si vous avez vu les vidéos, mais ça fait un peu flipper. Un camion style camion à pizza, mais flambant neuf, estampillé Vie Active. C'est le nom de l'asso qui a répondu à l'appel d'offres de la préfecture. Voilà, qui doit être bien.
Un camion style camion à pizza qui était censé distribuer quand même un certain nombre de centaines de repas, non?
Tout à fait. Et oui. Vu la gueule des repas, je pense que ce camion pouvait contenir des espèces de petits sachets avec de la nourriture en petites barquettes. C'était possible. Techniquement, à mon avis, c'était possible. Cette asso a dû se faire payer ça gentiment par la préfecture. À mon avis, parce que je crois qu'elle n'était pas spécialisée dans la distribution de repas dans des moments critiques. Elle fait tout un tas de trucs et je pense la préfecture, si elle l'a pris, c'est que ça devait faire partie des associations qui sont bien vues par la préfecture, vous imaginez. Donc tout ça au milieu d'un terrain vague entouré de grillages. Et vous voyez, au-dessus de ces grillages, il y avait ces barbelés en rouleau en forme de petite lame de couteau. En général, grillage barbelé que les migrants connaissent bien, parce que c'est ceux qui passent quand ils passent des frontières. Des gens, tout un tas de gens avec des gilets orange fluo, là, pour mieux qu'on les reconnaisse. Et le sous-préfet avec un chasuble sérigraphié préfecture avec la Marianne tricolore dessus. Bref, vous imaginez un peu, si on est migrant sans papier, c'est pas l'endroit où on va y aller. Hein. Ça, a priori, ça sent pas la bonne ambiance. Et si Collomb a mis tout ce temps à pondre un projet aussi merdique, ce n'est pas parce qu'il a fait un AVC, désolé, ce n'est pas non plus parce qu'il voulait faire les choses de manière plus qualitative. Hein. Dorénavant, seules deux distributions par jour auront lieu au lieu de trois. Maintenant il n'y a plus que 2 points de distribution mobile contre 5 fixes auparavant. Et donc voilà, avant les associations avaient décidé du coup de maintenir 5 points fixes pour que ce soit des lieux connus par les associations, par les migrants sur place, pour que ce soit simple pour eux de s'organiser autour. Et voilà, le sous-préfet lui défend ses 2 points de distribution mobile pour dire qu'ils veulent pas créer ce qu'ils appellent de points de fixation qui, d'après le sous-préfet, seraient responsables des tensions qu'il y a à Calais. Ce qui c'est pas du tout les pressions qui sont mises sur les migrants, les expulsions de squats réguliers.
Et de toute évidence, c'est très pratique d'avoir des points de distribution mobile pour donner des repas à des gens qui, par ailleurs, ont pas forcément des moyens hyper pratiques de s'informer en français pour savoir où vont avoir lieu les points de distribution. C'est sûr que ça a l'air d'une idée un peu grandiose, quoi.
Et dans tout ça, t'évoques même pas les conditions pour avoir accès à ces repas, parce que qui dit gestion de l'État par rapport à une gestion associative dit plus de contrôle des personnes, et je pense que ça s'explique aussi par le fait qu'il y a que 2 personnes qui soient venues récupérer des repas, alors qu'il y a beaucoup de gens, je pense, à Calais qui ont faim.
Tout à fait. Et en tout cas, les associations comme l'Auberge des Migrants et Utopia 56, qui donc faisaient partie des associations ciblées par Gérard Collomb, ont prévenu que si elles voyaient des dysfonctionnements dans les dispositifs de l'État, et a priori on peut plutôt parier là-dessus, elles reprendront la distribution de nourriture, bien sûr, afin d'assurer ce qu'elles estiment juste.
Alors, des philosophes, des militants parlent beaucoup de. Ils dénoncent le fait que dans la société, toutes les vies ne se valent pas. Par exemple, la vie d'un soldat américain vaut beaucoup plus que la vie d'un civil syrien. actuellement. Et dans les médias aussi, toutes les victimes d'attentats ne se valent pas. Et là, je vais un peu parler d'un article qui est paru dans le Monde diplomatique du mois de mars sur justement le traitement médiatique des attentats, parce qu'elle coûte cher et génère moins d'audience que les commérages sur la vie privée des vedettes, l'information internationale ne constitue pas une priorité pour les dirigeants éditoriaux. La couverture médiatique de certains pays géographiquement et culturellement plus loin de l'Occident est quasi inexistante sur bon nombre de médias qui nous informent, qui sont censés nous informer. Et pour donc illustrer cette dynamique d'une manière éclairante, le journaliste qui a écrit cet article se sert du traitement médiatique des attentats. Donc, la semaine du 2 novembre 2017, les journaux de 8 heures de France Inter ont consacré 6 minutes et 25 secondes à l'attentat de Manhattan. Alors, c'était survenu le 31 octobre à New York. Il y avait un conducteur d'un véhicule qui avait intentionnellement renversé plusieurs passantes, faisant 8 morts et 12 blessés. Et 2 semaines plus tôt, celui de Mogadiscio, une attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire africaine avec 512 morts. Donc là, on parle de 8 morts et de 512 morts. N'avait eu droit qu'à une brève de 21 secondes dans les journaux de 8 heures de la première radio du service public, soit 18 fois moins. Et entre le 18 et le 24 août 2017, les attaques de Barcelone et de Cambrils, qui avaient fait 16 morts, vous vous rappelez, qui ont été largement médiatisées. Donc ça a été revendiqué par l'organisation d'État islamique, avait été évoqué dans les mêmes journaux durant 24 minutes et 53 secondes, soit 71 fois plus que pour Mogadiscio. Donc ces trois attentats survenus dans un court laps de temps, en des points divers du globe, offrent un bon exemple de l'importance très variable accordée par les journalistes à ce type d'événement. Donc, une émotion sélective dans les médias. Et donc, ce journaliste a généré un comparateur de temps entre différents médias de l'audiovisuel, notamment TF1, France 2, Europe 1, France Inter, RTL, RFI, Le Monde, Le Figaro, New York Times. Et à l'exception notable de Radio France Internationale, l'ensemble des médias étudiés ont réservé aux attentats catalans un traitement quantitatif très nettement supérieur à celui accordé au massacre de Mogadiscio. Par exemple, TF1 a ouvert 6 fois les titres de son journal de 20h avec ces événements auxquels la chaîne a consacré 1 heure, 1 minute et 17 secondes entre les 17 et le 23 août, mais entre le 14 et le 20 octobre, elle n'a consacré qu'une minute et 48 secondes à l'attaque de Mogadiscio, soit 34 fois moins. Ça vous paraît peut-être rébarbatif, mais en même temps, c'est très précis et ça illustre vraiment que les vies n'ont pas les mêmes prix, quoi. Donc, on pourrait questionner la distance. Faut-il accepter, en guise d'explication, la faible distance qui sépare Barcelone du siège des rédactions parisiennes, ce qu'on appelle dans certaines écoles de journalisme la loi du mort kilométrique ou du mort kilomètre? Effectivement, ça explique, le local intéresse plus. Mais le simple critère de la proximité géographique tombe lorsque l'on compare le traitement par TF1 des attentats de New York et de Mogadiscio, puisque les villes sont respectivement situées à 5845 km et à 6625 km de Paris. Donc entre le 1er et le 7 novembre, les événements de New York ont été évoqués 3 fois, pour une durée totale de 21 minutes et 15 secondes, soit 12 fois plus que le temps d'antenne dévolu aux morts de Somalie. Donc même la question de la distance ne tombe pas là-dedans. Donc par contre, on peut plus évoquer sûrement les relations politiques et l'économie du journalisme. Donc au nombre des facteurs qui déterminent l'intensité de la couverture accordée à l'Afrique pourrait figurer l'implication de l'armée française ou la présence de Français parmi les victimes. La présence de journalistes sur le terrain apparaît elle aussi cruciale. Aucune des 3 radios, France Inter, RTL, Europe 1, qui obtiennent les plus grosses audiences matinales, ne dispose de correspondants permanents en Afrique. France 2 en conserve un à Dakar, malgré la fermeture de son agence spécialisée en 2014, tandis que TF1 ne travaille désormais plus qu'avec des journalistes pigistes sur le continent. Dans la presse quotidienne, Le Monde s'appuie sur deux correspondants permanents, officiant l'un à Johannesburg et l'autre à Tunis. Le Figaro ne dispose plus d'aucun journaliste mentionné en Afrique. Et seul RFI se démarque puisque la station publique, qui a pour slogan Les Voix du Monde, dispose de quatre correspondants en poste à Dakar, Abidjan, Kinshasa et Nairobi. Son traitement des trois attentats est moins déséquilibré donc que ceux de tous les autres médias. Et pourtant, des sites d'information dans plein de pays ne manquent pas. Et les relations entre journalistes pourraient donc s'intensifier. Il n'y aurait pas de souci à imaginer. Les journaux ne manquent pas et les sources, médiatiques ne manquent pas. Moi, je trouve, quand je vais sur Internet, je trouve tonnes d'infos qui ne sont pas forcément relayées. Donc, il s'agit bien, pour conclure, de partis pris éditoriaux afin de cultiver un sentiment pro-occidental dont, donc, à quand, je termine là-dessus, à quand des visions moins eurocentrées de l'information.
Voilà, justement, une vision moins eurocentrée des informations. C'est justement, pourquoi pas, dans ce Canu Info, qu'on peut parler d'infos pas nécessairement beaucoup relayées, en particulier qui viennent d'un site que je vous avais évoqué, qui s'appelle Global Voices. En fait, c'est des traductions, c'est des bénévoles qui traduisent des articles qui sont sortis autour du monde et qui les compilent. Donc vous avez un nombre invraisemblable d'articles qui parlent de tout et de rien, mais un peu partout dans le monde, quoi. Donc vous pouvez avoir des dernières nouvelles de la façon de gouverner en Azerbaïdjan, par exemple. Voilà. Alors là, j'ai pris un petit panel spécifique sur les droits numériques au travers du monde, et je vais vous citer quelques démarrages d'articles qui évoquent ça autour du monde, et justement pas en Europe, et justement sans avoir affaire à cette histoire de kilométrage potentiellement au loin de l'Europe. Alors, la première info, elle parle du tribunal de première instance de Tunis qui a refusé d'ordonner la fermeture de la web radio Shams Rad, qui s'adresse à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer. Donc c'est le conseil syndical des imams, chefs religieux des mosquées, donc, qui avait intenté une poursuite pour demander au tribunal d'ordonner à l'agence tunisienne d'internet de bloquer Shams Rad sous prétexte qu'elle menace les, j'ouvre les guillemets, valeurs sociales et familiales. Et donc, dans son jugement du 14 février, dont on n'a peut-être probablement pas beaucoup entendu parler sur TF1, le tribunal a statué que la station de radio ne porte pas atteinte à la réputation, etc., etc., et que donc les imams ont été débouté. Donc ça, c'était en Tunisie. On part au Pakistan avec la Cour suprême du Pakistan, deuxième bonne nouvelle, qui déclare que les fermetures des réseaux mobiles sont illégales. Voilà. Donc c'est une victoire juridique pour la liberté d'expression. C'est la Cour suprême d'Islamabad qui a jugé que donc ça fermer les réseaux mobiles quand c'est le gouvernement qui le fait, c'est illégal et c'est contraire à la loi sur les télécommunications, et donc on peut pas le faire. C'est une atteinte à la liberté. Donc, on n'a plus le droit de le faire. Donc, c'est une décision qui soulève la question de savoir si les pays voisins pourraient un jour suivre cet exemple. On se rappelle que, par exemple, le 12 février, les autorités du Bangladesh avaient temporairement fermé l'Internet mobile et réduit la vitesse du haut débit, en fait, pour éviter qu'il y ait des discussions pendant les examens scolaires. Voilà. Donc ça, c'était au Pakistan. Une autre info, on se décale toujours sur les droits numériques, on se décale en Inde, une petite info qui a l'air de rien mais qui montre un petit peu comme quoi c'est un petit peu compliqué du côté de l'Inde. Deux personnes ont été arrêtées dans l'Uttar Pradesh en Inde pour avoir soi-disant fait des remarques désobligeantes sur le Premier ministre et également sur les dieux hindous, tout ça dans une vidéo qui a été mise en ligne sur Facebook et WhatsApp. Voilà. Donc ces deux personnes ont fait cette petite blague. Elles sont accusées, en vertu du code pénal indien, d'avoir commis des actes malveillants et délibérés visant à offenser les sentiments religieux de tous les croyants en insultant leur religion. Voilà. Donc ils ont été arrêtés. Donc ça, c'est un peu raide. En un peu plus comique, 480 €. Voilà, 480 €, c'est donc cette fois-ci en Espagne. Un Espagnol a reçu, là, il y a quelques jours, une amende pour avoir publié sur Instagram un photomontage du Christ. Donc en fait, il a remplacé la tête du Christ par sa tête. Et donc, visiblement, les procureurs ont estimé qu'il a, ouvrez les guillemets, manqué d'égard et s'est moqué, fermez les guillemets, d'une communauté religieuse. Alors voilà, c'est quand même 380 euros de demande. Voilà. Cette fois-ci...
C'est vrai que généralement, quand on parle des pays dans lesquels le blasphème est puni par la loi, on parle beaucoup, beaucoup des pays musulmans. On parle plus rarement de l'Espagne, quand même.
Voilà, d'où l'intérêt, un peu par rapport à la discussion d'avant, d'avoir une espèce d'éventail d'infos, parce que si on fait que regarder les infos que d'un tout petit pays, on peut avoir un sentiment biaisé. Cette fois-ci... une courte info, un autre article toujours sur Global Voices, sur la surveillance prédictive. Vous voyez ce que c'est la surveillance prédictive? Ben, on vous surveille, vous n'avez rien fait, mais on vous surveille pour être sûr que vous n'allez rien faire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça dit rien de plus, pour le moins dégoulinant et pour le plus dangereux. C'est un rapport de Human Rights Watch qui a remarqué que du côté de la province dans l'ouest du Xinjiang, vous savez, c'est là où la population est majoritairement composée de Ouïghours, et les Ouïghours sont pas très très appréciés par le pouvoir central. Alors ils ont mis une technologie, donc les Chinois visiblement, une technologie de reconnaissance faciale en place avec des caméras de surveillance et un logiciel qui permet aussi de récolter les téléphones mobiles, etc., etc., pour avoir un aspect prédictif sur la possibilité qu'une ou telle personne pourrait potentiellement devenir violente, et violente au sens de devenir peut-être activiste pour la cause de ces pauvres Ouïghours. Voilà, donc c'est du surveillance prédictive. Et il y a le même exemple aux États-Unis. Alors ça fait un petit peu mauvais genre, c'est un journal qui s'appelle The Verge qui a montré que en fait, alors les conseillers municipaux le savaient pas, mais dans une ville de la Nouvelle-Orléans, les flics ont utilisé un logiciel tout simplement parce qu'ils sont abibochés avec une grosse entreprise de la Silicon Valley. Donc un logiciel qui permet de suivre les gens, d'identifier un petit peu ceux qui sont dans les gangs, et puis d'essayer de prédire en fonction des antécédents, en regardant les médias sociaux, et puis avec des histoires de probabilité, etc., etc., prédire qu'éventuellement certains individus pourraient être sur le point de devenir coupables de quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça, c'est absolument abominable, et heureusement, c'est sorti dans ce journal The Verge. Voilà. Une dernière info, vous êtes peut-être plus au courant que moi. Cette fois-ci, c'est en Turquie, toujours sur Global Voices, un article qui est écrit en turc, qui est donc que moi j'ai pas pu lire, qui a été traduit en partie donc en français, qui parle d'une commission parlementaire en Turquie qui a approuvé un projet de loi. Écoutez bien, qui va donc exiger que les diffuseurs en ligne, ceux qui diffusent de l'information en ligne, soit réglementé et autorisé par Ertuk, qui est donc le régulateur turc des médias. Ça veut dire que tout ce qui est diffusion d'infos en Turquie par le web devrait passer par le régulateur turc des médias, qui va pas évidemment juste regarder ça en fumant des clopes, mais qui va probablement exercer une forme de censure politique. Voilà, donc il y a les défenseurs de la liberté d'expression qui craignent ça, qui craignent que donc là il s'agit d'une censure politique, et le projet de loi a été fermement condamné par le comité de protection des journalistes. Donc ça date du 22, d'il y a quelques jours aussi. Voilà. C'était tout pour ce qui concerne les infos de difficultés de liberté numérique autour du monde. Et à 19h29 sur le Canu Info du mercredi, j'ai bien l'impression qu'on va parler de nucléaire.
Ah. Et alors oui, parce que figurez-vous que 4 associations, bon, en réalité quand on dit 4 associations, c'est différentes branches de sortir du nucléaire. Mais juridiquement, ces 4 associations, elles portent plainte aujourd'hui, elles accusent la centrale nucléaire du Bugey. Tiens, c'est pas très loin d'ici, puisque c'est dans l'Ain, d'avoir provoqué des fuites de tritium dans les nappes phréatiques.
Ah, je te trouvais un peu fluo ces dernières heures.
Eh bien, figure-toi que c'est peut-être parce que je me suis approché du Rhône, finalement. Parce que du coup, le tritium, alors le tritium, qu'est-ce que c'est ? Le tritium, c'est une saloperie radioactive. Ça existe à l'état naturel en toute petite infinitésimale quantité. Ça vient de l'espace intersidéral. Mais il y en a à peu près que dalle. Et par contre, c'est produit en quantité nettement plus balèze par les centrales nucléaires. Alors, par rapport à d'autres éléments radioactifs, celui-là, c'est pas tellement un souci de le stocker pour les millénaires qui viennent, parce qu'au bout de 12-13 ans, il a perdu son aspect radioactif. Par contre, pendant les 12-13 ans en question, il bombarde. Donc, le tritium, si jamais vous en trouvez une cuillère à soupe, éloignez-vous. Mais alors, pour le coup, vous risquez d'en trouver des cuillères à soupe, puisque là, on en a retrouvé à proximité du Rhône, en tout cas, on en a retrouvé à 35 bornes de Lyon. Et du coup, le Rhône pourrait tout à fait être déjà ou être bientôt contaminé. Les quatre assos ont porté plainte aujourd'hui auprès du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse contre EDF et contre la centrale pour pollution des eaux et infraction à la réglementation relative aux installations nucléaires de base. L'incident alors serait lié, figurez-vous, à la vidange d'un bassin de rétention.
Ah. Pardon.
Oui. Destiné à recueillir les effluents de la centrale. Donc ça remonte déjà au 20 décembre. Et à ce moment-là, EDF aurait déjà détecté une concentration anormale de tritium. Donc 670 becquerels par litre. Bon, ça vous dit rien, et moi non plus pas grand-chose. Mais en tout cas, le 20 décembre, il y avait ça. Et ça, c'était dans un tube qui menait tout droit à la nappe phréatique. Les jours suivants, on est quand même monté à 1600 becquerels.
Ça fait beaucoup déjà.
Et ça aurait été relevé dans d'autres endroits du site. Et ça aurait laissé présager le déversement dans l'environnement d'autres radioéléments et probablement de différents produits chimiques.
Je veux dire que c'est gros dégueulasse quand ils font leur vidange, ils balancent ça dans les nappes phréatiques en direct, quoi.
Ils n'ont pas fait exprès.
Ah.
Puisque c'est le problème d'un clapet.
Ah merde.
Un clapet qui était malencontreusement resté en position ouverte dans un puisard et deux pompes de relevage qui n'avaient pas fonctionné lors d'une opération de pompage sur des tuyauteries transportant des eaux contaminées. Autant dire que les centrales, vous voyez, c'est le truc qu'on n'arrête pas de trouver que c'est potentiellement dangereux, qu'il ne faut pas déconner avec ça. En fait, c'est tellement mal surveillé que voilà, les clapets ils restent ouverts, les pompes elles fonctionnent pas. L'autorité de sûreté nucléaire, après inspection, avait quand même parlé d'une inquiétante chaîne de dysfonctionnement, de défauts de surveillance, de dispositifs qui ne permettaient pas la détection automatique des fuites, d'absence de réaction rapide ou encore de matériel défectueux. C'est quand même ça que l'ASN avait dit sur la centrale du Bugey après cette histoire. La fuite de tritium, c'est la troisième en 6 ans dans cette centrale. Et alors, d'après les associations qui portent plainte, elle devrait nous alerter sur l'état général de la centrale du Bugey, qui cumule mauvais entretien des équipements, installations vieillissantes et risques externes impossibles à maîtriser. Et il faut bien dire que la centrale du budget est à peu près aussi vieille que celle de Fessenheim.
Mais elle est peut-être plus pourrie même, hein, visiblement. On parle beaucoup de Fessenheim, du Tricastin, mais visiblement, c'est carrément vraiment la cata. Hein.
Je sais pas, après, si vraiment on peut dire qu'il y en a une des deux qui devrait nous rassurer sur l'autre, par exemple. Mais... En tout cas, les associations qui portent plainte, elles, concluent à la nécessité d'un arrêt immédiat de ces réacteurs afin de libérer la région d'un risque démesuré. Et elles ne sont pas les seules à penser ça, puisqu'il y a 2 ans, en mars 2016, le canton de Genève avait porté plainte dans l'espoir d'essayer aussi de faire pression pour faire fermer cette centrale. Donc plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui. Il faut dire que la centrale est à 70 bornes à vol d'oiseau de la ville de Genève. Et ben voilà, mais bon, on imagine bien que Nicolas Hulot doit être en train de se préparer pour passer à la téloche, les larmes dans les yeux, dire que oui, c'est vrai, il faut absolument fermer très rapidement cette centrale, mais malheureusement, il va pas y avoir moyen. Alors bon, tant pis, on va la garder ouverte.
Moi, j'en suis sûr que tu dis tout ça juste pour pas que j'aille me baigner à Méribel Jonas ce printemps.
Écoute, ça demandera peut-être une jolie couleur fluo.
Et on continue dans le nucléaire pour parler de l'escalade du nucléaire de Washington et d'un nouveau rapport publié. Donc, c'est les principales puissances détentrices de l'arme atomique, États-Unis, Russie et Chine, qui se sont récemment lancées dans un processus de modernisation de leur équipement. Et Washington n'hésite pas à envisager leur utilisation. C'est ce que révèle donc le rapport sur l'évaluation du dispositif nucléaire des États-Unis, le Nuclear Posture Review, NPR, publié par le Pentagone le 2 février 2018. Et les informations sont issues, encore une fois, du Monde diplomatique de mars 2018. Le ministère de la Défense range sous le terme dispositif nucléaire à la fois une évaluation de la sécurité dans le monde, une déclaration officielle de la politique américaine en matière d'armes atomiques, et un inventaire des équipements dont le développement est jugé nécessaire. Sur chacun de ces points, le nouveau NPR se montre particulièrement alarmiste. Les États-Unis seraient confrontés à des menaces plus nombreuses que jamais. Donc ça, c'est vraiment, on peut voir déjà un engagement très fort, puisqu'on parle, comme pendant la guerre froide, de menaces. Et donc, à commencer par l'hostilité et le bellissime de la Russie et de la Chine. Donc vraiment, on est en scénario guerre froide. Il conviendrait donc qu'ils révisent de fond en comble leur politique nucléaire et qu'ils développent de nouvelles munitions afin d'accroître la marge de manœuvre de leur président et de lui permettre de passer à l'acte si nécessaire. Donc ce dispositif nucléaire présenté par l'administration Trump rompt avec la stratégie définie par le précédent gouvernement, puisque en avril 2010, le NPR de Barack Obama se donnait pour but de diminuer l'importance des armes nucléaires dans la doctrine militaire américaine, mais aussi de réduire l'arsenal au niveau mondial en ouvrant des négociations avec les autres grandes puissances. Donc elle supposait que les relations entre grandes puissances pouvaient s'améliorer, que la perspective d'une guerre nucléaire s'éloignait et qu'il était devenu possible de réduire les stocks d'armes en toute sécurité. Sauf que le rapport publié cette année, 8 ans plus tard, rejette ces 3 propositions. Donc c'est un véritable manifeste pour une nouvelle ère nucléaire. Et il affirme vraiment l'exact inverse dans le rapport que celui de Barack Obama, 8 ans avant, en 2009. Donc à aucun moment le NPR ne reconnaît le rôle joué par les États-Unis et leurs alliés dans la dégradation supposée des relations internationales. Le rapport omet ainsi de mentionner l'expansion de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, sur le territoire de l'ancienne Union soviétique, ou encore le pivot provocateur des États-Unis dans la région Asie-Pacifique, qui a été ces dernières années un gros enjeu. Rien non plus sur la supériorité écrasante en matière d'armement nucléaire, ni sur leur investissement massif dans les armements conventionnels et la conquête de l'espace. On pourrait presque conclure, en lisant ce rapport, que les États-Unis souffrent d'un retard sur la Russie et la Chine et doivent donc renforcer leur armée. Or, en 2016, ils occupaient, et de loin, la première place au palmarès mondial des dépenses militaires. Avec, attention, tenez-vous bien, 611 milliards de dollars, ils dépassent la somme des 8 pays suivants. Donc les 8 pays additionnés, ils dépassent même cette somme-là. La seule augmentation de 80 milliards de dollars dédiée pour 2018 excède le budget militaire de n'importe quel pays, à l'exception de la Chine. Le Pentagone dispose de bases militaires éparpillées aux 4 coins de la planète et maintient des forces de combat prêtes à agir à la périphérie de la Russie et de la Chine, qui, elles, ne massent pas des troupes au Mexique ou au Canada. Et pourtant, selon le NPR, les États-Unis sont sévèrement menacés par Moscou et Pékin, seuls responsables de l'escalade de la tension nucléaire. Donc, ils mettent en place la tension nucléaire, en disant que c'est les autres qui le font, sachant qu'ils sont les plus puissants. Et c'est pas fini parce que ils vont développer de nouveaux équipements. Donc ce rapport, c'est pour débloquer de l'argent, ne l'oublions pas. La conception et la production de cette artillerie s'étaleront sur de nombreuses années, pour une facture totale estimée au minimum à 1200 milliards de dollars. Dans sa proposition budgétaire pour seulement 2009, l'administration Trump a d'ores et déjà prévu 2,3 milliards de dollars pour les bombardiers B-21, 3,7 milliards pour les Columbia, 600 millions pour les missiles à longue portée et 300 millions pour le système de dissuasion, soit un premier acompte de 6,9 milliards de dollars. Et pour mettre en œuvre sa stratégie de dissuasion, qui est estimée dans le rapport flexible et sur mesure, le Pentagone devrait enfin se doter de munitions nucléaires de faible puissance, utilisables contre la Russie ou la Chine lors d'un éventuel conflit. Et dans le cadre de leur engagement au sein de l'OTAN, les États-Unis stationnent pourtant déjà en Europe des avions à double capacité, qui peuvent lâcher des bombes nucléaires de faible puissance B-61 sur l'ennemi russe. Donc, de nouveaux équipements. Et qui dit investissement de milliards de dollars, dit mettre tous les anciens armes nucléaires qui sont un peu vieillissantes. Dans ce rapport, il parle beaucoup du vieillissement des armes nucléaires. Donc, les mettre à la poubelle. Et donc, pour conclure, ça donne envie de parler de la lutte qui est à Bure, puisque c'est une lutte pour refuser une décharge nucléaire qui est mise en place par l'ANDRA, qui est l'entreprise.
Vas-y. Agence nationale, des déchets radioactifs.
Et qui est l'unité qui va gérer ces déchets. Et à Bure...
C'est l'unité qui va gérer l'enfouissement des déchets, mais après la gestion des déchets, puisqu'ils vont y rester pendant 50 000 ans ou je sais pas quoi, ils vont un peu avoir du mal à le faire, quoi.
C'est ça, possible aussi que l'ANDRA ne dure pas aussi longtemps que ça.
Vous doutez de la pérennité de cette entreprise.
Et du coup, voilà, on parle d'armes, on parle de... Du coup, le nucléaire et son monde, c'est ça. C'est des armes, c'est de l'électricité, mais c'est surtout un monde de guerre et d'armement pour ne pas intervenir, mais un monde qui s'arme à outrance.
On peut rajouter que Macron a annoncé il y a quelques jours ou semaines qu'il allait donner un coup de polish à ses sous-marins et à ses têtes nucléaires dans la même veine, en fait, pour poursuivre et maintenir la dissuasion nucléaire française.
Et le nucléaire, c'est aussi donc toute une police qui va avec pour prendre, faire attention à ses centrales et etc. et à ses déchets. Et du coup, là, à Bure, ce week-end, il y avait des actions de militants. Et donc, il y a eu aussi quand même pas mal. Il y a eu 7 arrestations, plusieurs personnes qui sont passées en procès en début de semaine là. Et il y a eu 2 mois de prison avec sursis et 3 mois de prison avec sursis qui ont été mis en place contre donc des personnes militantes qui refusent d'avoir des décharges dans la Meuse.
Bon bah écoutez, ça va quand même être le moment pour on fait pas ça très souvent, mais quand même une petite info jolie, parce que le monde n'est pas que constitué de poubelles nucléaires, il est aussi constitué de bouteilles à la mer. Et on vient de retrouver en Australie une bouteille qui a été jetée à la mer il y a 132 ans.
Oh.
Et c'est quand même j'aime vraiment bien ce
genre. Bouteille vide.
Non, pas du tout. Une bouteille avec un message. Donc, c'est une petite famille qui se bat sur la plage.
Tout le monde aurait voulu.
Qui trouve une bouteille. La mère de famille se dit « Oh, elle serait jolie chez moi, cette bouteille, parce que c'est une jolie bouteille ancienne. » Elle la ramasse. La belle-fille ouvre la bouteille, sort le sable et trouve un formulaire imprimé, écrit en allemand, et des mots manuscrits aussi, mais tout ça très difficilement lisible. Bon, il arrive, il trouve des gens, il trouve des experts. le musée d'État d'Australie occidentale, qui s'intéresse au machin. Et alors voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 12 juin 1886, un voilier allemand, le Paola, a balancé cette bouteille à 950 km du rivage australien. Alors 950 km, mine de rien, c'est pas hyper loin.
C'est pas beaucoup,
ouais. Ça doit être plus ou moins quoi, la distance Paris-Marseille. En tout cas, c'est pas complètement dingue par rapport
à l'Australie, c'est rien du tout. Hein.
C'est ça. Et à l'échelle de la planète, où la bouteille s'est baladée pendant 132 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passait à cette époque? C'est que l'observatoire naval allemand avait mené une opération scientifique sur la longue durée, puisque ça avait duré entre 1864 et 1933. Opération scientifique qui visait à comprendre le fonctionnement des courants marins. Et donc, ils se baladaient avec des bateaux et ils balançaient des bouteilles dans la flotte à des endroits en notant plein de données un peu précises de où et quand la bouteille avait été balancée et en demandant aux gens qui trouveraient la bouteille de la rapporter au consulat allemand le plus proche ou à l'observatoire naval allemand et de préciser la date et le lieu de la découverte.
Alors, entre parenthèses, les chercheurs et chercheuses font toujours ça, notamment à l'Ifremer et un peu autour du monde.
Avec des
ils
bouteilles.
Balancent des bouteilles avec des GPS qui font gling 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 et donc ils en balancent des milliers et en fait tu peux suivre les courants par le fait que ces espèces de bouteilles qui envoient le signal GPS, et ben on les voit se déplacer quoi.
Ouais. Et ben voilà, en tout cas là, écoutez, cette petite famille a retrouvé cette bouteille, elle va être exposée au musée de Fremantle, et tout ça est l'occasion de dire que la bouteille la plus ancienne qui avait été précédemment retrouvée, elle n'était restée en mer que 108 ans, celle-là c'est bien 132 ans.
Il n'y avait pas un message d'amour dedans ou quelque chose comme ça?
Non, quelqu'un, un message scientifique, ce qui est pas mal aussi.
Mettre au pas les riches avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'était le titre d'un article de mensuel Regard qui faisait état de deux études qui viennent de sortir. En fait, il y en a une qui est sortie il y a quelques jours, qui s'appelle, ouvrez les guillemets, niveau de vie et inégalité, comment se situe votre commune. Et donc, il y a toutes les communes de plus de 20 000 habitants, vous pouvez taper la vôtre, et vous allez voir à quel point elle est super inégalitaire, et puis vous allez découvrir qu'il y a des communes qui sont pas du tout inégalitaires. Alors, il y a par exemple Gif-sur-Yvette, où en fait, il y a que des riches, et donc il n'y a pas d'inégalité spécialement entre les riches et les pauvres, parce qu'il n'y a que des riches, et puis d'autres villes comme Mulhouse, par exemple, qui est vraiment l'archétype de la ville où il y a des inégalités, avec des gens qui sont très très riches, et beaucoup de gens qui sont quand même très pauvres. Voilà, donc ça c'était juste un prétexte pour engager la fin de cet article, où en fait, la fin de cet article parle de Aki Kaurismäki, qui est un cinéaste plutôt recommandable, qui a une esthétique à lui très spéciale, quoi. Je sais pas comment on pourrait décrire, disons, des films qui ressemblent un peu à des rêves.
C'est assez glaçant, mais très poétique.
Ouais, voilà. Et qui a commencé une trilogie sur les migrants, trilogie qui a commencé donc par un film, et il a dit qu'il allait arrêter après ce premier film. Et ce premier film a eu, il a eu plus exactement le prix du meilleur réalisateur à la dernière Berlinale, et il en a profité pour déclarer, j'ouvre les guillemets, nous devons exterminer les riches et les politiciens qui leur lèchent le cul. Donc ça m'a un petit peu inspiré, et au même moment je vous propose la lecture de la revue Ballast. Donc c'est une revue qui est sur papier et qui est également tous les articles sont en libre accès sur internet. Il y a un truc assez sympa également, c'est qu'il y a une espèce de liste de propositions de lecture tous les mois, et donc la revue Ballast nous parle d'une autre revue qui s'appelle Frustration, qui est une revue qui a été lancée par des amis bénévoles, j'ouvre les guillemets, qui avaient un même dégoût du capitalisme et une lassitude envers les formes convenues de la critique sociale. Et pourquoi je vous parle de cette revue? C'est que leur premier numéro s'appelait, en 2013, « Pourquoi il faut détester les riches ?» Voilà. Et donc je vous propose la lecture de la réponse à la question posée par la revue Ballast, à ceux qui ont fait la revue Frustration. Ils leur ont dit, mais pourquoi vous aviez utilisé ce titre, pourquoi il faut détester les riches, pour lancer votre premier numéro? Ça voulait dire quoi? Ça suggérait quoi? Et en fait, la réponse que ces gens donnent m'a inspiré, je vous en propose la lecture. Oui, on n'est pas les premiers à dire que le terrain de la lutte des classes a été abandonné ou ringardisé dans les années 90-2000. Avec la crise financière et la remontée en flèche des inégalités sociales, ce thème est heureusement revenu au premier plan, mais avec une importante dérive, selon nous. Il est traité de façon trop théorique, trop désincarnée. On parle des classes dominantes, les classes supérieures, la finance internationale. En disant « il faut détester les riches », nous voulions parler d'eux comme des adversaires identifiés et incarnés. Ils ont un visage. Ils ne règnent pas sur nos vies depuis une mystérieuse échelle internationale qui les rendrait intouchables. Ils sont là, dans nos villes, et en particulier notre capitale, avec leurs clubs, leurs restos, leurs hôtels particuliers, leurs chauffeurs. Ils font des choix, soutiennent des candidats, tentent d'orienter les lois en leur faveur. Ce sont des gens en chair et en os, pas des marchés générés par d'implacables lois immuables de l'économie, ni un petit groupe de 10 comploteurs qui se réunissent dans l'ombre pour décider notre destin. Voilà, donc toujours les gens qui ont écrit cette revue Frustration qui continue. Nous avons voulu affirmer une analyse de gauche qui redirige la frustration et la colère que nombre de gens ressentent sincèrement vers ceux qui sont responsables de l'état actuel de la société. Pas les profs trop laxistes, ni les créateurs de jeux vidéo violents ou les syndicalistes trop archaïques, mais les riches, ce groupe qui se divise en strates successives entre les 10 et les 0,1% les plus fortunés, dont les membres ont pour point commun de maîtriser notre économie par les ressources financières, professionnelles et symboliques qu'ils monopolisent et qui parviennent toujours à faire triompher en politique une vision de la réalité à leur avantage. Enfin, il s'agissait, et il s'agit toujours, de prendre le total contre-pied du discours qui fait des riches des sauveurs de l'humanité, des gens méritants. On peut rappeler que, par exemple, là c'est en off, que Macron lui dit « quand il y a des riches, c'est super, parce qu'après ça va entraîner les autres vers le haut, ça va, ils vont servir de premier de cordée, donc s'il y a des riches, ben, les autres vont être riches ». Donc, des gens méritants qui ont pris des risques et qui méritent pour cela qu'on les aime et qu'on se plie en quatre pour eux. Or, les riches détruisent la planète et entretiennent un système économique violent et injuste. Ils ne sont pas méritants. L'immense majorité d'eux a tout eu. C'est le principe de leur éducation que d'éliminer toute possibilité de déclassement social de leur progéniture. Ils n'ont pris aucun risque, si ce n'est de décider où investir l'argent dont ils héritent et qu'ils ont obtenu grâce au travail des autres. Celles et ceux qui prennent des risques dans ce pays, ce sont les ouvriers et les ouvrières du bâtiment qui meurent encore d'une chute mortelle depuis des toits, ce sont les aides-soignantes, ce sont des livreurs et les livreurs à vélo qui slaloment entre les voitures pour que des petits bourgeois puissent recevoir leur plat japonais. Nous disions dans ce numéro, détester les riches, c'est aimer l'humanité, car leur présence et leur pouvoir sont le dénominateur commun qui nous lie entre gens qui ne vivons pas au même endroit, ne parlons pas la même langue, ne faisons pas le même travail. Voilà. Donc ça, c'était... un petit peu pour faire écho à, donc c'est dans la même heure, j'ai vu ces deux façons de dire qu'il faut considérer qu'en fait les riches sont un problème, que c'est pas nécessairement une nébuleuse invraisemblable de choses qu'on peut pas gérer. Il s'agit pas peut-être d'aller jouer à la castagne, mais de considérer que en fait le fait qu'il y ait un surclassement d'une petite catégorie de la population qui a tous les pouvoirs, y compris pour maintenir ce surclassement, ben c'est ça qui est un problème assez fondamental. Voilà. Donc ensuite, vous pourrez lire dans cette revue Ballast la justification de leur numéro 11, et j'arrêterai là. Le titre dans le numéro 11, vous attaquez Macron de plein frais et raillez dans son sillage les fils à papa, les héritiers, les bandes d'enfoirés du management et les nuisibles, etc., etc. Il s'explique également sur ça, en précisant donc ce qu'ils ont derrière eux. En particulier, ils sont pas très fans de Macron, ça c'est sûr.
Ah bon ?
Et redonne-nous le nom donc de cette revue.
Alors, la revue, je sais pas si elle est spécialement recommandable. En tous les cas, la revue qui parle de cette revue, c'est la revue Ballast.
Oui, ça.
C'est vraiment, vraiment super top.
C'est le nom de l'autre qui nous convient.
L'autre revue, elle s'appelle Frustration.
Frustration. Ouais.
Mais et en voulait... particulier, ils mettent en lien la frustration des gens qui peuvent être parfois convertis en une haine d'un tiers, en particulier des migrants ou des migrantes. Et c'est ça qu'ils disent, il faudrait peut-être que cette frustration soit utilisée pour qu'elle soit canalisée vers les vraies raisons de la frustration qui seraient ces inégalités assez criantes, quoi.
On vous mettra le lien sur notre blog.
Waouh!
Wow. Ah, wow. On peut dire des trucs comme ça maintenant à la radio, ça fait un peu plus classe.
Et nous allons conclure ce Canu Info par un petit agenda. Donc ce jeudi 8 mars, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes. C'est de plus en plus l'occasion pour nos adversaires, les gros bourges capitalistes, de faire de la thune sur cette cause. Mais revenons à nos petits camarades justement pour ce jeudi 8 mars, où c'est le collectif de radio qui est absolument génial, Lilith, Martine et les autres sur Radio Canut. Tiens, c'est cette radio, je ne suis pas du tout objectif, qui organise une soirée qui va être assez sympa, la soirée féministo-radiophonique. C'est de 20h à 21h. Elles animeront une émission en direct au Rita Plage, qui est un bar féministe à Villeurbanne. Des actus, des sketchs et un jeu questionne pour une championne avec de nombreux cadeaux. Donc n'hésitez pas à aller au Rita Plage, c'est 68 cours Tolstoy. Et si vous êtes un peu trop timide, d'écouter votre radio de 20h à 21h à ce moment-là. Voilà. Et le même soir, si vous n'écoutez pas votre radio, vous n'êtes pas au Rita Plage, il va y avoir une conférence gesticulée de Marianne Godez. Et la conférence gesticulée, c'est un mélange de savoir chaud et froid, c'est-à-dire théorique, mais aussi très incarné, très par l'expérience. Et donc, Marianne Godez, elle est costumière de métier et elle va parler de ses vêtements qui nous touchent à même la peau. Et elle se questionne au travers de son expérience professionnelle sur comment en fait ces fringues, comment ils sont produits, sur quel modèle, pourquoi, par qui. Et elle nous propose de regarder de plus près les processus donc de fabrication de la filière textile conventionnelle pour mieux comprendre les processus d'exploitation d'un système au service d'intérêts uniquement financiers et aussi pour commencer ensemble à construire une réponse politique qui permette l'émergence d'une alternative autour de la filière chanvre, où chacun puisse trouver sa place. Et elle, elle, sa posture, c'est de dire comment on trouve une solution collective et pas juste une des solutions individuelles de boycott de marque, mais comment on met à mal cette filière-là qui fait que des centres commerciaux comme La Part-Dieu font énormément de bénéfices et qu'il y a des personnes qui sont vraiment exploitées dans le monde, dans des usines. Et pour finir, donc vous pouvez retrouver toutes les infos de l'agenda sur rebellion.info. Là, j'en fais la sélection de trois que je trouve particulièrement intéressante, mais il y a plein d'autres choses qui se passent. Il va se passer une pride de nuit contre les agressions transpédéguinophobes, LGBTQIAphobes, ils disent, le 10 mars. Donc c'est samedi à 21h, place des Terreaux, pour une marche de nuit 100 mecs cis genre donc qui voilà pour reprendre la rue la nuit. Donc c'est parce qu'il y a actuellement toujours des agressions verbales, physiques, sexuelles à l'encontre des transpédéguines et que l'espace public ne l'est pas forcément pour tout le monde, et aussi parce que il y a eu ces dernières semaines et mois plusieurs agressions transphobes et homophobes à Lyon, sexistes et racistes, et en particulier visant des femmes trans racisées, et donc c'est pour dénoncer ça. Et il va y avoir également vendredi soir une marche au flambeau pour continuer depuis plus d'un mois maintenant à dénoncer les bombardements du gouvernement turc sur la ville d'Afrin.
Et ce sera à 19h, place Bellecour. Ce Canu Info touche à sa fin et a priori vous ne retrouverez pas l'émission Idées Noires parce qu'on ne les voit pas derrière le bocal. Et donc on va vous laisser avec les fameuses pannes continues. Merci de nous avoir écoutés.
À la semaine prochaine.
Salut.
Ciao.
N'est pas assez rayon pour moi. Je sais que que tu es.